C'est un peu bizarre. J'ai vu un cercueil de cristal.
Les oreilles ressemblent à celles de Satan.
Ah, oui.
He is Satan.
Ça m'a donné très bizarre. Ça m'a réveillé tout de suite.
A mao can kill the evils.
La Chine à l'ombre de Mao.
L'internet chinois, le nouveau territoire de la répression.
Par Alain Lefkowitz.
Je m'appelle Peng Hong. Je suis né en 1975.
Je m'appelle Peng Hong.
Je suis né en décembre
1975.
En
2009, alors que le gouvernement menait une politique de lutte anti-mafia, j'ai posté sur Internet un dessin humoristique qui dénonçait un gouvernement protégeant la mafia. À cause de ça, j'ai passé 2 ans dans un camp de travail. C'est le bureau de police qui vous y envoie. Il n'y a pas d'interrogatoire, pas de procès, pas de jugement. C'est une violation de la loi.
Je m'appelle Sun et j'ai
34
ans.
En février 2011, j'ai publié sur Internet une photo de la révolution tunisienne.
J'ai été condamné à 3 mois de détention administrative.
On a l'impression que les officiels ici ont peur du peuple.
C'est pour cette raison que Wang Qishan, un des 7 membres du comité permanent du bureau politique, a recommandé la lecture de l'ancien régime et la révolution d'Alexis de Tocqueville. Ça prouve que le pouvoir est en crise. D'après une étude réalisée par Han Han, le célèbre blogueur et écrivain essayiste, de plus en plus de gens parlent de révolution sur Weibo, le Twitter chinois.
Tous les Chinois sont conscients. Mao est un grand héros.
Combien sont-ils chaque année, comme ces internautes victimes de la police du net chinois, à tomber dans la spirale de la répression et à être condamnés au camp de travail pour protéger la société de leurs mauvaises influences et éviter qu'ils ne perturbent cette harmonie sociale si chère aux dirigeants actuels? Personne ne le sait. Malgré les centaines de millions d'euros dépensés chaque année par l'État pour la surveillance du net, la blogosphère chinoise est en ébullition. Weibo, le Twitter made in China, est devenu le lieu d'affrontement où s'oppose une société civile émergente et active aux centaines de milliers de censeurs soutenus par les animateurs virulents de ce qu'on appelle la Nouvelle Gauche, mouvement ultra-maoïste présent dans toutes les couches de la population. L'univers Internet fait changer d'échelle le défi antitotalitaire. Il le diffuse parmi les quelques 400 millions d'internautes chinois que rien ne répile ni ne révulse davantage que la censure, forme vulgarisée mais dotée de moyens humains et technologiques ô combien redoutables, de la dictature du parti unique. Ce transfert répartit d'autant le risque d'exposition à une violence d'État dont l'intensité, quand elle s'exerce sur l'individu, est difficilement supportable pour les nouvelles générations de citoyens consommateurs. À la demande de démocratie a succédé l'exigence d'un flux libre de l'information, outils de surveillance et de contre-pouvoir collectif dont les Chinois, jeunes et moins jeunes, urbains et ruraux, ont pu découvrir l'efficacité ces dernières années. Insensiblement, le parti voit s'éroder le capital de légitimité que lui avait conféré parmi la population la spectaculaire modernisation économique de la Chine. Censurer l'Internet, effacer les blogs, faire la chasse aux mots interdits et oblitérer l'histoire apparaît comme une vaste entreprise anachronique, rétrograde et débilitante aux yeux de tous ceux qui, étudiants, intellectuels, patriotes, ont à cœur le futur de la nation. Ainsi, partout sur la toile, les internautes se déchaînent pour critiquer le régime actuel à travers une liste assez exhaustive de thématiques liées au quotidien du peuple. Les médias, le cinéma, les relations amoureuses ou les interventions policières. C'est également dans ce monde virtuel que l'héritage de Mao est passé au crible. Sur ces sites néo-maoïstes, on se déchaîne, fustigeant les traîtres et les esclaves de l'Occident. Ces sites, qui tiennent pour certains du défouloir, ne sont pas sanctionnés par le régime. Ils sont le plus souvent accessibles en Chine, contrairement à nombre de sites pourtant inoffensifs. Leurs membres sont bien moins inquiétés par la police que ne le sont les militants pro-démocratie. Ils prennent désormais pour cible les personnalités les plus libérales des milieux intellectuels ou du web, galvanisés sans doute par la vindicte officielle de la propagande contre tous ceux qui tombent dans la catégorie des ennemis de la Chine, l'image de Ai Weiwei ou encore Liu Xiaobo. D'un côté, les anti-maoïstes comme Yan Jincheng, l'auteur de Stèle, l'ancien droitier et économiste Mao Yushe, lauréat du prix Milton Friedman, ou encore Hu Xingdu, professeur à Pékin considéré comme très libéral et critique du régime et de l'héritage de Mao. De l'autre, les néo-maoïstes comme Fan Jingang ou Su Manan, tribun et internaute très connu, qui nous reçoit dans son appartement cossu de Pékin. Pour l'occasion, ce petit homme robuste aux revenus confortables a souhaité filmer notre entretien, à l'issue duquel ma photo sera postée sur Weibo, accompagnée d'un commentaire désagréable rédigé par notre hôte, fustigeant la presse occidentale que ce soir-là, j'incarnais. Alors Su Manan, vous avez accueilli chez vous en musique avec tous ces différents gongs, mais on est dans une sorte de cabinet de curiosité ici avec beaucoup d'objets. Alors au milieu de tous ces objets où Mao est disposé, on peut voir E.T., on peut voir aussi Lénine, on peut voir un certain nombre d'objets bouddhistes. Ça va bien avec Mao, tous ces objets, des statues africaines, des sculptures sur bois de la Chine d'avant Mao.
C'est drôle ce que vous me dites.
但是呢, 我从西藏回来, 别人献给我的哈达,
parce que je ne le voyais pas comme ça.
确实明确的,
j'ai mis au centre de cette pièce Mao parce qu'il est pour moi le plus important, le plus cher, et que je ne veux pas le quitter des yeux. Un peu en retrait, derrière lui, j'ai mis Bouddha. J'ai recouvert son visage d'un masque de théâtre traditionnel chinois. Les Chinois ont cru en Bouddha pendant des milliers et des milliers d'années. Mais cette croyance a changé grâce à Mao.
Alors, Su Manan, vous êtes un homme public, vous intervenez beaucoup dans les médias. Quel message vous transmettez par rapport à justement cet amour que vous portez à Mao? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui veulent démaoïser la Chine. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces gens?
C'est compliqué parce qu'il existe plusieurs courants
anti-maoïstes.
Il y a ceux qui ont été mal informés. L'interprétation qu'on leur a donnée de Mao est erronée.
所以至今他心里边没有平衡，所以他痛恨毛泽东，因此他们就栽赃陷害，泼污造谣毛泽东。还有另外一种情况呢，那就是今天
il y a ceux qui détestent Mao,
接受了另外一套东西，他们认为一个民族
pour avoir été des victimes.
人类是没有
ils ont été propriétaires terriens et ont vu leurs biens confisqués au profit des pauvres.
所有的社会当中的人都是小人。
Et enfin, il y a ceux qui pensent que la société est purement matérialiste et que ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est le désir.
Ils
pensent qu'il n'y a pas de héros national.
Pour les différents gens, je pense qu'il faut avoir différents traitements.
Quoi qu'il en soit, tous ces gens doivent se soumettre aux lois de la République populaire de Chine et à sa constitution. Ils doivent suivre les principes du Parti communiste parce que c'est la pensée de Mao qui dirige le pays et le parti.
Nier
Mao, c'est comme si on niait Washington aux États-Unis. Beaucoup d'intellectuels chinois et de gens pauvres des zones rurales de province partagent mes idées.
Mais est-ce que vous n'oubliez pas une quatrième catégorie de gens qui ont été victimes aussi des politiques menées par Mao ?
Écoutez, je parle au nom de la plupart des Chinois, mais je vois sur Weibo que beaucoup ne comprennent pas vraiment les tenants et les aboutissants de ce que je dis. Certains m'insultent et me critiquent, mais ils se trompent. Ils pensent, en plus, que beaucoup de gens me détestent, mais c'est une illusion.
Que disent justement vos détracteurs sur Weibo, le Twitter chinois ?
Ils me critiquent en m'accusant d'être un maoïste d'extrême gauche.
Ça veut dire quoi être de la nouvelle gauche ?
Mao est un mot de la nouvelle gauche.
Ils disent, Soumanan veut mettre en place une révolution culturelle. Mais c'est juste une façon de dire que je ne pense pas comme eux. Ils racontent aussi que je suis un résidu de la révolution culturelle. Mais je leur dis que personne en Chine n'a le pouvoir de refaire une révolution culturelle. Une révolution qui s'est produite à une époque bien précise et pour des raisons bien spécifiques.
Qu'est-ce qui se passe sur Internet en ce moment ? Il y a une guerre entre la nouvelle gauche que vous incarnez et puis les autres ?
Oui, la guerre est violente sur Internet. Il y a d'un côté les droitiers. Qui représentent les plus riches, les tycoons et les spéculateurs immobiliers. Et de l'autre, les gauchistes. Qui représentent les pauvres. Moi, j'ai été violemment attaqué quand j'ai révélé les activités mafieuses de trois grands tycoons. Je peux citer Peng Shei et Zheng Shetian, deux des plus grands spéculateurs immobiliers. L'un d'entre eux a même pris une nationalité étrangère. En dénonçant tous les jours sur Weibo leurs méthodes illicites, j'ai suscité de nombreux débats.
Pourquoi
le gouvernement ne veut pas intervenir dans cette guerre ?
Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est trop compliqué de s'attaquer à ces tycoons.
Mais
La corruption est si forte que beaucoup d'officiels sont impliqués dans ces affaires. Le gouvernement ne peut donc réagir au risque d'être lui-même éclaboussé. La seconde, c'est que ces gens sont très puissants et peuvent faire très peur. Moi, j'ai reçu des menaces du genre « Si tu continues, tu vas mourir de façon atroce et on va retrouver ton corps dans un sale état. » Et puis vous savez, en Chine, avec de l'argent, vous pouvez régler tous vos problèmes.
Il n'y a pas de navire sans pilote. Le navire, c'est la Chine. Le pilote s'appelle Mao Zedong. Ce poème chanté clame la confiance du peuple chinois à l'égard de son guide. Mao Zedong proclamait du haut de la porte de Tiananmen, « Peuple de Chine, désormais nul ne pourra plus t'insulter, tu es un peuple debout. »
Zhang Lifan, on s'échange les cartes de visite avant tout entretien sur la vôtre. Il y a marqué Zhang Lifan, historien, restore history, contribute common sense. Ça veut dire que la Chine a perdu le sens commun.
Oui. Nous avons perdu le sens commun car la vérité historique ne nous a pas été révélée. Cela fait plus d'une soixantaine d'années que cela dure. Le problème, c'est que le Parti communiste n'a jamais été très clair sur Mao, sur ce qu'il a fait de bien, sur ce qu'il a fait de mal. Ce qui a, en quelque sorte, empêché la pensée d'évoluer. Les Chinois sont les produits de ce système d'éducation. Face à un problème, ils vont penser A ou B. Une autre solution ne leur viendrait pas à l'idée. Beaucoup de jeunes rejettent la période post-maoïste, pensant qu'à l'époque de Mao, c'était mieux. Ils forment ce qu'on appelle les gauchistes. D'autres rejettent tout ce que le Parti communiste a fait, se disant que le Kuomintang était sans doute mieux que le Parti communiste. La seule référence qu'ils connaissent pour comparer les deux, c'est le passé. Ils ne regardent pas ce qui se passe dans le monde.
J'imagine que les autorités ne vous regardent pas d'un très bon œil quand vous tenez ce genre de discours.
Bien sûr qu'ils sont très mécontents de ce que je dis, mais ils commencent à en avoir l'habitude. Par exemple, pendant les périodes sensibles comme celle de la réunion du Congrès ou du Congrès national du peuple, les gens comme moi sont sous pression, on nous empêche de nous exprimer. Mon compte Weibo est fermé. Je suis suivi. Mon téléphone est sur écoute. Quand je reçois une sollicitation d'un média étranger, on me fait comprendre que je ne dois pas y répondre favorablement. Ça peut être même très dangereux. J'étais en voiture et une autre voiture, noire, sans plaque d'immatriculation, a tenté de nous foncer dedans à plusieurs reprises. Vous voyez, il n'y a pas que sur Internet qu'on vous intimide. Dans la vraie vie aussi, on vous fait peur.
Vous
Zhao, vous suivez Zhang Lifang sur Weibo. Quelle réaction vous avez quand vous lisez tous ces messages?
Il poste de nombreux articles qui révèlent des parties de l'histoire que je ne connais pas, que l'on ne peut trouver ni dans les manuels scolaires, ni dans les publications officielles.
Ça veut dire que vous, à l'école, vous n'avez pas appris cette histoire, et aujourd'hui, les jeunes comme vous, de votre génération, utilisent Weibo, utilisent Internet.
Les éditeurs ne choisissent qu'un certain genre de livres. Ceux qui veulent critiquer le gouvernement sont interdits. Internet est donc un très bon moyen de connaître la vraie histoire.
Est-ce que vous recevez ce qu'on appelle les 5 Mao, des messages 5 Mao?
Je
suis souvent harcelé par ces Wu Mao. D'ailleurs, quand je signe une publication sur Weibo, je mets « historien, ennemi public des Wu Mao ». Soumanan et moi, nous opposons souvent sur Weibo depuis que j'ai posté un dessin d'un grand Mao encerclé par 4 petits Mao. Il a organisé pas moins de 4 talk shows pour me critiquer. Pour lui, je salissais et méprisais le drapeau national. Il a même voulu me poursuivre en justice, mais la loi ne l'a pas soutenu.
Expliquez-moi ce que c'est que ces messages 5 Mao.
Cette idée provient des étudiants en université. Ils postaient des messages favorables au gouvernement qui les payaient 5 Mao, 5 centimes d'euros le message. Le gouvernement a repris cette pratique à son compte en dotant de fonds importants le bureau de propagande. De nombreuses personnes qui n'ont justement pas beaucoup de travail, des chômeurs, des handicapés, deviennent des Wu Mao en postant ces messages de propagande. Une mafia s'est même installée. Elle perçoit un pourcentage sur les Wu Mao qu'elle a sélectionnés.
Zhang Lifang, d'un côté, vous faites dépenser de l'argent au gouvernement parce que, évidemment, en réaction à vos posts sur Weibo, les Wu Mao vont envoyer des messages. Donc, vous faites dépenser de l'argent au gouvernement. Et dans le même temps, vous permettez à un certain nombre de chômeurs de gagner un petit peu d'argent, tout en critiquant le système.
Oui, je contribue grandement à la croissance du PIB.
On sait à peu près combien de Wu Mao il y a en Chine.
Le nombre de Wu Mao est énorme, mais on a pu compter que dans la province de Guangdong, il y avait 5000 Wu Mao et qu'ils jouent un très grand rôle dans le maintien de cette harmonie chère au gouvernement.
Vous avez été le premier blogueur chinois.
J'ai créé le premier site de blogueurs chinois et j'ai traduit en chinois l'ouvrage intitulé The World Blogger.
Alors comment on dit blogueur en chinois? Alors on a bien compris que le gouvernement dépensait tout cet argent pour maintenir justement ce que vous appelez l'harmonie sociale, et que cette année, ce budget pour maintenir l'harmonie sociale, la stabilité sociale, a dépassé le budget de la défense. C'est efficace comme politique.
C'est
C'est comme une pièce de théâtre à deux scènes. D'un côté, il y a la société civile qui devient de plus en plus forte, et de l'autre, le gouvernement qui investit de plus en plus d'argent pour maintenir l'harmonie. Mais ce n'est pas viable parce que les sommes investies sont de plus en plus grandes et dépassent même le budget militaire. Et que, dans le même temps, le mécontentement est de plus en plus fort avec la pollution, les démolitions de maisons et les expulsions. Ceux qui sont chargés de maintenir cette harmonie partout dans le pays subissent aussi ces injustices auxquelles le gouvernement ne veut pas faire face. Les mouvements sociaux spontanés sont de plus en plus fréquents et plus importants. Plus de 200 000 cette année impliquant des centaines de milliers de personnes. C'est un vrai défi pour le gouvernement.
Le 20 septembre 2009, j'étais devant mon ordinateur en train de transférer une image comique critiquant le pouvoir mafieux. Une demi-heure après, sur le côté droit de l'écran, un message d'alerte est apparu me disant que selon le bureau de la surveillance d'Internet, je devais immédiatement me rendre à la police. J'ai été très étonnée, puis j'ai vite oublié l'histoire. Le 10 octobre, la police est venue frapper à ma porte. Ils m'ont demandé certaines informations, puis j'ai dû les suivre au commissariat. J'ai été interrogée pendant 2 heures. Sur mes activités et la raison pour laquelle je postais ce genre d'images sur Internet. Je leur ai dit que j'avais simplement transféré cette image et que je n'en étais pas l'auteur. Ils ont fini par me relâcher. 2 jours plus tard, la police est de nouveau venue chez moi alors que j'étais en famille. Ils m'ont fait signer une sorte de déposition et m'ont demandé de ne pas quitter la ville de Chongqing, de rester chez moi autant que possible. C'est ce que j'ai fait. J'ai parlé de cette histoire à ma femme et des risques que je prenais d'être arrêté pour quelques jours. Moi, je n'avais jamais rien fait de répréhensible. Vous imaginez ce qui a pu se passer dans ma tête ? J'étais paniquée. Le 13 octobre, à 23h, il pleuvait beaucoup. Je passais la soirée avec ma femme. La police est arrivée et m'a embarquée.
En février 2011, j'ai transféré une image de la révolution tunisienne juste par curiosité. Je l'ai envoyé de mon bureau à un ami qui s'apprêtait à célébrer son anniversaire. J'ai voulu plaisanter. Ton anniversaire, ça va être une révolution. Quelque chose comme ça.
12
heures plus tard, la police qui surveille Internet est venue dans l'entreprise où je travaillais pour interroger mon patron. La police a été persuadée que j'avais des idées politiques qui visaient à inciter les internautes à déclencher une révolution de jasmin en Chine. 12 heures plus tard, on m'embarquait.
Vous avez été condamné à une peine, vous avez été condamné à une autre peine de camp de travail. Qui décide de la longueur de la peine? C'est arbitraire?
Il existe un comité du camp de travail et des règles édictées par le Congrès qui précisent, en fonction de la faute commise, la durée d'enfermement dans le camp. Mais tout ça est complètement ridicule. Par exemple, ces règles établissent des catégories de gens qui doivent aller dans ces camps. Mais ni lui ni moi n'appartenons à ces catégories. Les camps de travail sont illégaux et violent la Constitution. Tout ça est un non-sens.
Ça veut dire qu'ici, la justice est une sorte de loterie. C'est pas à quoi on peut s'attendre.
C'est très variable. Vous voyez, nous avons eu le même problème. Nous avons été condamnés, mais à des peines différentes. Et ce pourquoi nous avons été condamnés peut parfois n'avoir aucune conséquence. Il y a des gens qui ont fait la même chose que nous et qui n'ont jamais été arrêtés. Moi, j'ai été condamné à 3 mois et lui à 2 ans. Certains prennent même 5 ans. Et si après on pétitionne pour protester contre notre première détention, on peut être renvoyé au camp.
Avant, il y avait les pétitionnaires. On allait à Pékin ou dans les grandes villes de Chine revendiquer, parler des injustices. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 millions d'utilisateurs de Weibo. Vous les avez suivis pendant plus de 2 ans. De 2011 à 2013, quelles sont les préoccupations principales qui sont en jeu sur Internet?
Une nouvelle tendance est apparue sur l'Internet chinois au cours de ces 2 dernières années. Des hommes d'affaires très riches, des tycoons, des célébrités aussi, ont commencé à s'exprimer sur la toile. Leurs discours sont très audacieux. Par exemple, de très gros propriétaires comme Pan Chenyi ou Chen Zhetian ont créé des forums de discussion dans lesquels ils parlent de problèmes sociaux. Et les échanges qu'ils ont avec les autres hommes d'affaires qui participent sont très francs et spontanés. Il y a aussi une classe moyenne qui se manifeste sur des réalités très concrètes, du jamais vu avant. Face à ces nouvelles formes de revendications, le pouvoir politique ne fait pas grand-chose. Avant de venir vous voir, j'ai lu un post sur Weibo d'un célèbre avocat chinois connu pour être un fervent partisan de la poursuite des réformes. Il est pessimiste. Il pense que la politique de réforme du gouvernement est morte. Il explique que tout ce qui a été dit à ce sujet au dernier Congrès national populaire a été flou.
Le gouvernement dépense beaucoup d'argent pour éliminer le plus rapidement possible les messages envoyés sur Weibo. Comment ça se passe?
Il existe beaucoup de moyens pour éliminer les messages et manipuler l'opinion sur Weibo. On compte 4 Weibo qui appartiennent à des entreprises différentes.
Il y a le Sina Weibo qui est le plus largement exploité et développé. Il emploie des milliers de personnes dont l'unique tâche est de supprimer les postes anti-gouvernementaux. Les salaires y sont très bas. Il y a le Tencent Weibo et le QQ Weibo. Il y a aussi des personnes appartenant au bureau des journalistes qui observent et filtrent tout ce qui est posté sur le net. Et si quelque chose ne va pas, il s'adresse à Sina Weibo qui efface ces informations indésirables. Enfin, il y a les Wu Maotang, des commentateurs internet qui n'hésitent pas à se déchaîner sur tel ou tel internaute qui aurait posté un commentaire trop critique à l'égard du parti.
Weibo, c'est le Twitter chinois. Pourquoi ici, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook, YouTube est interdit, il n'y a pas d'autres forums de discussion.
Le gouvernement a peur des réseaux sociaux étrangers, surtout après ce qui s'est passé en Tunisie.
Alors, est-ce qu'on a le droit de tout dire sur Weibo, ou est-ce qu'il faut faire très attention?
Oui, il faut savoir jouer. Quand le pouvoir exerce sa censure en fermant un compte, il est possible de se réincarner en ouvrant un autre compte sous une autre identité. Je connais même quelqu'un qui s'est réincarné plus de 300 fois.
Alors, vous avez écrit un livre sur le droit des utilisateurs d'Internet en Chine. C'est quoi ces droits dans un pays qui ne respecte pas la loi, dans un pays justement qui n'est pas un état de droit ?
Ce livre est interdit en Chine. J'ai voulu rendre visibles les nouveaux modes de contestation qui existent depuis ces 10 dernières années, les nouveaux langages qui permettent de contourner la censure. Il existe des mots sensibles, comme le mot « protestation », qu'il faut bannir des blogs. On use alors l'expression « aller faire un tour », par exemple.
Alors, si on devait définir le profil d'un utilisateur de Weibo, ça serait quoi ? C'est quelqu'un d'éduqué, qui vit en ville ? Ou est-ce qu'on y trouve aussi des gens moins éduqués, des zones rurales ?
Tout le monde, les petits vendeurs de rue, ceux qui appartiennent aux classes les plus défavorisées, même les travailleurs migrants, les Ningongs, utilisent Weibo. Pour exprimer leur colère, ils organisent à partir de ces réseaux des happenings artistiques. Un groupe de Mingong s'est déguisé, par exemple, il n'y a pas très longtemps, en personnage de Disney pour défiler devant le siège de la radio nationale afin de réclamer des salaires plus élevés.
In China, from the 1920s all the way through to 1949, there was no leader like Mao Zedong. His military victories were breathtakingly successful, and his ability to inspire the people was electrifying.
Mao Zedong came to power in the 20s, organizing peasants in Hunan, the south of China, and launched this whole new kind of revolution. He sort of stood Marx on his ear. Instead of workers, he organized a revolution with peasants.
Principle.
Han De Kyang, vous avez défrayé la chronique, une affaire qui a éclaté ici en Chine, dont tout le monde a parlé, la fameuse gifle que vous avez donnée à ce vieux monsieur qui n'était pas d'accord avec vos idées.
J'étais jeune homme dans les années 80. À cette époque, on critiquait beaucoup Mao. Je me souviens de discussions et de débats, mais ça se passait sans agressivité. L'affaire à laquelle vous faites référence s'est déroulée lors d'une manifestation de protestation anti-japonaise. Ça concernait l'affaire des îles Tiaoyu. Elle avait été menée par des militants
maoïstes.
Ce vieil homme a fait irruption et a commencé à condamner violemment notre action. Alors je l'ai giflé. C'est comme si vous blasphémiez le Christ dans une église. Ou Mahomet dans une mosquée.
Oui, mais là, c'était ni dans une église, ni dans une mosquée. C'était lors d'une manifestation de rue. Vous regrettez ce geste?
Oui, si c'était à refaire, je le referais. Oui.
Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus s'afficher comme appartenant à cette nouvelle gauche. C'est un peu risqué parce qu'on les considère comme trop extrémistes, et notamment après ce qui s'est passé à Chongqing, après l'affaire Bo Xilai.
Il y a deux choses à comprendre. La première, c'est que lorsque Bo Xilai a été destitué, beaucoup de gens ont perdu la foi au sein du pouvoir. On s'est senti
trahis.
La seconde, c'est qu'il faut savoir que les médias, presse et radio, sont dirigés en grande partie par des droitiers qui empêchent les gens de gauche de se faire entendre. À cela s'ajoute le fait que, peu de temps après le 6 avril 2012, le jour de la destitution de Bo Xilai, les autorités ont fermé 46 sites de gauche, dont le nôtre, le site d'Utopia. Nous avons donc été trahis d'un côté et censurés de l'autre.
Alors effectivement, vous êtes le fondateur, le créateur de ce site qu'on appelle Utopia. Qu'est-ce que ça veut dire Utopia et pourquoi avoir créé ce site internet?
Les raisons sont évidentes. Utopia symbolise ce qui n'existe pas dans la réalité. Si un jour cette utopie devient réalité, alors nous aurons réussi. Le message que nous voulons transmettre, c'est que l'honnêteté favorise la revendication. C'est que la justice crée la fortune. L'égalité insuffle la motivation et la liberté suscite la passion.
Fan Jingang, un de vos amis du site Utopia, disait que le site Utopia aurait reçu près de 300 millions de visiteurs en 2010, dont un grand nombre de jeunes nés dans les années 80 et 90, et que vous étiez nombreux à soutenir le mouvement Occupy Wall Street. Vous êtes les nouveaux indignés chinois?
Je ne sais pas.
Je ne connais pas bien les chiffres. Vous dites que selon Fan Qingkang, il serait plus de 10 000. On peut alors estimer à plus de 300 millions le nombre d'utilisateurs, si on sait que le site a été créé il y a plus de 10 ans. En tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est que nous avons beaucoup de jeunes. Mao parlait des trois montagnes qu'il fallait gravir pour améliorer le sort du peuple. Aujourd'hui, ces trois montagnes, ce serait l'éducation, la santé et le logement. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils s'expriment sur notre site, ne se plaignent pas de la dureté de leur travail ou du temps qu'ils y consacrent. Leur seul souci, c'est celui d'avoir un logement en ville. Ils se posent un tas de questions. Pourquoi les entreprises étrangères sont si importantes en Chine ? Par rapport aux entreprises chinoises, pourquoi le capitalisme est aussi présent alors que Mao avait réussi à l'éloigner. Ce sont toutes ces questions qui les poussent à venir consulter notre site.
Utopia est impliqué dans les conflits politiques qui divisent le parti. Elle a tiré des avantages à soutenir Bo Xilai, car ils donnaient beaucoup d'argent aux organisations comme celle-ci et aux intellectuels qui le suivaient dans sa politique. Et c'est pour cette raison qu'Utopia est sous la surveillance du gouvernement, parce qu'elle leur fait peur.
Alors d'un côté, vous dites que Utopia reçoit de l'argent du gouvernement, mais en même temps, Utopia fait peur. Il a peur de tout le monde, finalement, ce gouvernement.
Le Parti communiste applique une méthode qu'il connaît bien, celle qu'il a utilisée pendant la guerre froide et qu'il a apprise de Staline, qui gouvernait en considérant tout le monde comme un ennemi potentiel. Et qu'il a apprise de Staline, qui gouvernait en considérant tout le monde comme un ennemi potentiel. C'était la même chose à l'époque de Mao. Il y a les ennemis de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Du coup, le parti se voit comme une victime. Et dès que quelqu'un émet l'idée d'une réforme quelconque, il est perçu comme un opposant. C'est une façon très guerre froide de penser.
Han Dekyang, vous avez des mots durs, puisque bon, il y a Utopia, et puis il y a d'autres sites internet de la nouvelle gauche, comme le site néo-maoïste Jim Bush Hui. Qui est un autre site sur lequel vous dénoncez les traîtres, les esclaves de l'Occident. Vous voulez éliminer les insectes nuisibles, comme on peut le lire sur ce site. Vous êtes à la recherche du moment glorieux où se réalisera la régénération d'une civilisation grandiose. On est quand même dans des mots assez forts.
Quand je parle de traîtres, je parle de ceux qui ont vendu les entreprises publiques pour leur profit personnel. Ils n'ont rien à voir avec les ennemis de classe. Les traîtres, ce sont ceux qui sont de mèche avec les pays étrangers. Et pour moi, un vieil homme qui dort dans la rue ou un SDF peut très bien être un traître. Nous sommes tous en Chine, dominés par les multinationales étrangères. Nous sommes les esclaves de l'Occident. Et la Chine ne fait rien contre ça.
Yan Jinsheng, votre livre Stèle a été traduit en France. C'est un travail énorme sur les crimes du communisme. On sort là d'un rendez-vous avec Han Dekyang. J'imagine que c'est pas votre ami, cet homme, et que vous avez souvent eu affaire à ce type de personnage. Comment ça se passe pour vous dans votre combat pour la dénonciation justement des crimes du maoïsme ici en Chine ?
Oui, je connais les gens de gauche. Et lui, je le connais personnellement. Mais nous ne sommes pas ennemis. Je respecte sa liberté d'expression, mais je pense que ce qu'il raconte n'est fondé sur aucune preuve. Moi, je suis en mesure d'apporter les preuves de ce que je dénonce comme étant les crimes du maoïsme.
Alors comment on fait justement, Yan Jinsheng, pour trouver ici en Chine ces évidences historiques ?
J'ai analysé les données provenant de bureaux de statistiques de 12 villes. J'ai épluché toutes leurs archives. J'ai également interrogé beaucoup de témoins et de victimes de cette époque. Mon travail est basé sur 80% d'archives et de 20% de ces témoignages directs. Je me suis également servi de relevés de faits locaux, in situ. J'ai compilé toutes ces informations que j'ai classées et remises à la bibliothèque de l'université de Nanjing.
Vous avez des difficultés à consulter ces archives, parce que c'est des choses, j'imagine, qu'en Chine, c'est compliqué de vouloir travailler sur cette période et de dénoncer les crimes du maoïsme.
C'est grâce à mon statut de vieux professeur de journalisme de l'université de Tsinghua que j'ai pu avoir une autorisation signée par chacun des premiers secrétaires de chaque province. Sans cela, jamais je n'aurais pu le faire.
Le nombre de victimes provoquées par la politique de Mao, c'est combien de personnes ?
Il est difficile de dire avec exactitude un chiffre. Dans mon livre, je parle de 36 millions de personnes mortes durant cette période. Certains experts annoncent 40 millions, d'autres 20 millions. J'ai fait une sorte de moyenne. Vous savez, la vraie histoire est interdite en Chine, tout comme mon livre. Il est interdit. L'histoire que les gens apprennent a été construite de toutes pièces. C'est une fiction totale qui a pour seule fonction de maintenir le parti au pouvoir.
Vous voulez dire que votre livre est interdit en Chine ?
Le livre n'a jamais été officiellement publié en Chine. Mais beaucoup de gens l'ont acheté à Hong Kong. Et lorsqu'ils passent la frontière et la douane, le livre leur est immédiatement confisqué. C'est comme ça avec beaucoup d'ouvrages. Donc mon livre n'est pas publié en Chine et il est toujours interdit.
J'ai écrit ce livre dans le plus grand secret. Quand je voulais interroger les témoins directs, je disais que je voulais leur parler des problèmes agricoles. Il est très difficile d'avoir accès à la vraie histoire pour un Chinois ordinaire.
Mais dans l'esprit des gens, on a l'impression que Mao est un horizon indépassable et que les problèmes contemporains, pour les résoudre, il faut regarder en arrière. Pourquoi ne pas regarder en avant et ne pas essayer de trouver le moyen de dépasser cet horizon que constitue Mao?
Ce qui est devant nous est trop obscur pour y voir le futur.
Alors, on dit que c'est la radio qui a tué l'Union soviétique et qui a fait chuter le communisme en Union soviétique. Est-ce que vous pensez que Weibo, Internet, va faire chuter le communisme en Chine ?
Oui, je le crois. Grâce à Weibo et aux smartphones, tout un tas d'informations concernant les problèmes sociaux se diffusent largement et peuvent être partagées, ce qui peut avoir la vertu de réveiller de plus en plus les gens. Vous savez, les jeunes gens aujourd'hui ne lisent plus les journaux. Et même les journalistes ont cherché leurs informations sur Weibo.
Alors comment expliquer pourquoi le gouvernement continue dans cette voie ?
Parce que ça répond aux intérêts d'un groupe de gens très puissants qui a mis en place solidement cette politique. Et même des gens comme l'ancien Premier ministre Wen Jiabao, l'ancien président Hu Jintao ou l'actuel président Xi Jinping n'ont rien pu faire et ne peuvent rien faire. C'est pour ça que je vous dis que les réformes sont mortes.
Il demeure le président Mao, vénéré de tous, maître du quart de l'humanité.
Alors écoutez, si vous voulez, nous terminons par saint vers du président Mao, car nous savons tous que c'est tous les poètes. Saint vers du président Mao qui nous donne une description de la Chine, on pourrait dire touristique. Orange, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet, qui danse au ciel et fait tournoyer ses rubans irisés. Après la pluie, le soleil reparaît à l'horizon. Peu à peu, cols et montagnes virent au bleu.
Merci à Peng, à Sun, à Wang Tunxiu, Sumanan, Han Dekyong, Zhang Lifan et Yang Jincheng.
Quand il me prend dans ses bras.
Merci enfin à Zhao Zhongtun, à Yang Yang et à Orange et aux voix de France Culture pour les traductions.
Ma vie en
Internet chinois, le nouveau territoire de la répression, un documentaire d'Anne Franchini, Jean-Michel Coqui et Alain Lefkovitch. Nous restons en Chine dans notre petit studio improvisé, installé au milieu du salon de notre appartement pékinois. Pour finir dans quelques instants, cette quatrième matinée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao avec un débat consacré à cette question épineuse de la réécriture de l'histoire de la Chine maoïste. Une histoire officielle, aujourd'hui controversée, mais qui semble avoir encore de beaux jours devant elle.